Radio Barque pour notre deuxième partie de cette 37e et dernier épisode d'ailleurs de notre saison. Eh bien, on va parler encore du résultat des élections avec Monsieur Viola, président du département.
De la suite.
Oui, bien sûr, la suite. Là encore, c'est un feuilleton. Et alors, Monsieur Viola, donc,
oui,
comme tu l'avais dit précédemment, bien battu.
J'avais fait le pari lors de notre...
Qui avait fait semblant de mettre en jeu son mandat départemental, mais en réalité, là aussi, tartarinade.
Oui, pantalonnade, c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'avais fait le pari...
Enfin, il y avait un côté tartarin de faire semblant de...
C'était un marié cul que ça se transforme en pantalonnade. La dernière chronique que j'ai faite, la semaine dernière, enfin, j'avais fait le pari que M. Viola serait reconduit par ses pairs, de sa majorité, et non pas par ses pairs du conseil départemental, serait reconduit pour présider cette instance. Eh bien, j'ai gagné le pari. Bon, ouais, il a été effectivement reconduit par ses pairs et non pas en séance publique par l'ensemble des conseillers départementaux, à l'occasion d'un vote à main levée, évidemment.
À main levée et en groupe. Non, pas réunion publique.
Tu penses bien que bon, on n'avait pas procédé à un contrôle, enfin à un vote à bulletin secret, avec le risque, sinon certain, peut-être probable, en tout cas prévisible, de certaines abstentions, compte tenu de l'échec cuisant que M. Viola a subi, alors même qu'il se présentait comme le leader départemental des députés socialistes.
Donc il est reconduit glorieusement,
après un échec tout aussi glorieux.
Sauf que quand même, la presse n'en a pas parlé, mais il s'est fait allumer en séance publique cette fois-ci, bien comme il faut, par un des deux seuls conseillers départementaux d'opposition, Henri Martin.
Oui, qui lui a rappelé effectivement des pratiques.
Qui lui a fait d'abord remarquer que son vote s'était passé en catimini et à main levée, alors que s'il avait eu le courage, gaullien a-t-il ajouté, de solliciter les mandats à vote secret et en séance publique, sans doute que les scores auraient été fort différents.
Oui, probablement.
Ce qui, semble-t-il, a jeté un froid et a donné chaud aux oreilles à un certain nombre d'élus présents.
Probablement, Jean-Claude, mais je fais le pari qu'il aurait été reconduit de la même manière, peut-être avec une ou deux abstentions, que sais-je, ou contre, mais il aurait été reconduit, quelle que soit effectivement la forme.
De toute façon, il a une énorme majorité.
Pourquoi ? Parce que bon, le contexte est tel que je ne vois pas du tout, franchement, dans sa majorité, quelqu'un ou quelqu'une qui ait le courage de se lever pour dire « Monsieur Viola, vous avez fait votre temps, c'est bien, on vous remercie. Hein, maintenant, on passe à la main pour renouveler les têtes, les esprits et les pratiques. »
Voilà. En tout cas, ça a été dit à Radio Barque.
Voilà, ça a été dit. Alors, ce qui m'a le plus estomaqué, si je puis dire, c'est que même scénario pour une autre députée, qui plus est sortante, sèchement elle aussi battue par notre invité, si je puis dire.
Puisque par M. Pereira,
parce que maintenant il occupe son siège. Là quand même, deux minutes. On apprend par un communiqué de presse de Mme Renfarbe que la fédération, à l'appel des militants, on imagine tous les militants de Narbonnais se réunissent, appelant Madame la Fédération et Madame Fabre, si j'ai bien lu, et je continue son communiqué, demande à Madame Fabre de dynamiser,
de requinquer le parti,
de dynamiser les sections socialistes de la Narbonnaise pour s'engager vers et les engager et elle avec vers de combats futurs. Notamment les prochaines élections à venir, et elle rajoute, après les points de suspension, quelles qu'elles soient. Alors traduisons. Bon, j'ai été battu, mais je me remets en selle.
Dans 5 ans, je me remets en selle.
Bon. Et puis, je vais régler les comptes, parce que son communiqué est particulièrement, marqué par un fort ressentiment. Je pensais notamment au porte-parole de Jean Narbonne, M. Saint-Augue, qui, c'est vrai, comme d'autres, d'ailleurs, entre parenthèses, n'a pas brillé par sa présence et par son action, en fait, hein, pour soutenir la candidature de la députée sortante.
C'est oui, le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'elle leur a reproché implicitement, d'ailleurs.
Ce qui veut dire, un, bon, règlement de compte au sein des socialistes locaux. Deux, en fait, Jim Narbonne, bon, on ne va pas très bien maintenant savoir à quoi ça va servir compte tenu du rapport de force tel qu'il est établi maintenant après la victoire de En Marche.
Ça, on verra.
Des scores de France Insoumise, qui s'y rajoute celui du PC, bon, on fait 15%, donc largement au-dessus de Madame Fabre, etc., etc. Donc, on va enfin, ce que je prévois, je peux me tromper, quoi, hein, c'est très rapidement, dans le petit microcosme politique local, hein, un certain nombre d'événements à venir qui vont se traduire par des règlements de compte et par, je dirais, comment dirais-je, un brouillage sérieux, en fait, de ce qui pourra se passer dans la perspective des prochaines municipales en termes de leadership local pour les socialistes locaux. Alors,
voilà, donc c'était quelque chose qui est à suivre et qui va immanquablement te donner de la matière et de l'intérêt, Michel.
D'autant que, je peux me permettre ce petit point voilà, de vanité, entre guillemets, quoi, hein, et entre parenthèses aussi, un de ceux que j'ai cités dans mon blog n'a pas manqué de me faire passer un message dans lequel il note que ce scénario que je présentais dans mon billet de mon blog et que je viens rapidement de résumer ici était malheureusement un scénario fort probable.
Oui, bon, ben, l'avenir nous le dira de toute façon et il sera intéressant plus tard de consulter les archives de Radio Barque pour dire oui, ben voilà, peut-être que ça avait été vu. Pour finir cette deuxième partie, alors, et en présence du député, j'insiste bien là-dessus, une question, moi, que je me pose à la lumière d'un certain nombre de faits divers dans l'actualité récente, c'est est-ce qu'il y a encore une autorité de l'État ? Est-ce que la loi est appliquée ? Je prends l'exemple les gitans ou les gens du voyage, selon les appellations, dont on s'aperçoit, et la presse a fait largement écho de ce sujet récemment, dont on s'aperçoit qu'ils ont en théorie et même en pratique des aires de grand passage à leur disposition, mais que très souvent ils n'y vont pas, et qu'ils s'installent un petit peu partout, dans des endroits publics et même dans des endroits privés, mais surtout en causant des dégâts et avec un comportement qui est parfois grotesque. On parle même d'excréments sur des tables, des choses comme ça, et je fais un effort pour être poli. Alors la question qu'on se pose, c'est quand même comment peut-on laisser faire ce genre de situation alors qu'il y a illégalité flagrante ? Un autre cas qui m'a interpellé aussi, mais que tous les lecteurs de la presse sans doute, c'est les vols répétés, je dis bien répétés, de fils de cuivre dans un certain nombre de communes du Lézignanais et du Minervois. On vole du cuivre, bon, ça c'est classique, mais à un tel point qu'à un moment, les réseaux téléphoniques se retrouvent handicapés et ne peuvent plus fonctionner. Et Orange, anciennement France Télécom, annonce, je crois, 26 plaintes récentes. Alors là encore, on se dit, est-ce qu'on fait les efforts nécessaires pour trouver les coupables. Donc, je souhaiterais savoir ce que le député pense d'une telle situation, lui qui représente aujourd'hui la nation et puis la loi, en quelque sorte.
Avant, peut-être une petite remarque.
Oui, alors, Michel, oui.
Quand même, Jean-Claude, les enquêtes, ça demande du temps.
Oui.
Déjà. Bon, pas bon, parce qu'au motif que les vols de... Tu vois, la correspondance entre les gitans, le vol de cuivre, etc. Bon. Non.
Je lis l'actualité, j'ai pas fait de
rapprochement, je te l'accorde. Mais je note que certains pourraient le faire. Mais on vole du cuir, mais il faut faire une enquête, bon, ça prend du temps, mais c'est vrai qu'on peut pas mettre des flics partout, en fait, pour éviter. Bon. Et quant aux évangélistes, on les appelle comme ça, mais dans entre parenthèses.
Ah bah, ils se font appeler comme ça.
Ça neutralise effectivement ethniquement. Bon, là, pareil, les procédures judiciaires.
Sauf que si toi, tu avais chez toi ces gens-là, tu parlerais probablement différemment.
Moi, j'ai pas de maison,
comme un certain nombre,
champ.
Comme beaucoup de gens qui en souffrent.
Non, mais cela dit, je ne dis pas effectivement que ça pose pas de problème, quoi. Ça pose effectivement de sérieux problèmes de sécurité, en fait, et de voilà, bon, ça crée des problèmes.
Et surtout, ça pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors, monsieur Perea, monsieur le député, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites, vu votre rôle maintenant ?
Moi, je voudrais élargir la question et la résumer à trois axes forts qui ont marqué la campagne d'Emmanuel Macron, marqué ma campagne et la façon dont nous avons ouvert cette législature. Premièrement, nous avons en France une façon de faire de la loi et surtout un corps législatif qui n'est jamais remis en question. On pourrait parler de bien d'autres sujets que les deux que vous avez abordés.
Oh, certainement, voilà. Certainement.
Et donc le renouvellement, à la fois dans la façon de faire de la politique, mais aussi à l'Assemblée, fait, et je l'ai déjà vu là dans les jours que je viens de passer à Paris, fait que nous allons avoir une capacité à faire de la loi différemment et à réinterroger certains acquis qui sont certains issus de la Révolution, d'autres pour les sujets dont vous venez de parler de la Seconde Guerre mondiale, et donc réinterroger la loi. La deuxième chose, c'est la question de la morale ou de la façon dont on aborde la façon d'élaborer la loi. Et sur les questions que vous parlez, mais il y en a bien d'autres, on mélange souvent la façon de faire la loi et les questions de morale. Ça complexifie tout, et là aussi, Emmanuel Macron et avec notre groupe au niveau de l'Assemblée, nous avons beaucoup parlé de cela, notamment le week-end dernier. Et la dernière chose dont je voudrais parler, ben c'est tout simplement, et on le sait sur beaucoup d'autres sujets, c'est faire des lois, c'est bien, mais quels sont les moyens que l'on donne à l'État
pour les appliquer.
Pour les appliquer. Voilà, donc un, la capacité que nous aurons à renouveler sur plein de sujets les lois, réinterroger au regard de la société en 2017 et non pas en 1789 ou en 1946. Ensuite, la place de la morale dans la loi. Et troisièmement, les moyens que nous donnerons, c'est-à-dire flécher des priorités.
Merci Alain Perea. On marque une deuxième pause et on vous retrouve alors pour une interview beaucoup plus longue tout de suite après.